France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Une forme d'attentisme, de résignation, d'indifférence, de lassitude. Voilà peut-être, c'est une hypothèse personnelle, les sentiments qui présidaient à l'annonce de la nomination d'un nouveau Premier ministre la semaine dernière. Alors que, selon le Cevipof, seuls 26% des Français déclarent avoir confiance dans la politique, contre 47% en Allemagne, 39% en Italie. Eh bien, les Français pensent-ils vraiment que la politique ne sert à rien? Placent-ils encore, malgré tout, quelques espoirs dans nos institutions, dans des élections à venir, dans le jeu des partis, ou bien mise-t-il plutôt sur des mouvements associatifs, sociaux, locaux? Pour en débattre, deux invités ce soir. Camille Pascal, bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire, écrivain, historien, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy et de Jean Castex. Vous avez publié l'an dernier aux éditions Robert Laffont, La Reine du Labyrinthe, sur l'affaire du collier qui a agité la Cour de France et la société tout entière quelques années avant la Révolution. Face à vous, Thierry Pech, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général du groupe de réflexion Terra Nova et vous êtes le co-auteur de l'ouvrage intitulé Marine Le Pen, présidente dystopie politique, je le précise, 2026-2029, ouvrage que vous avez rédigé avec Guillaume Anezo et Hakim Elkaroui et qui est apparu aux éditions du Petit Matin. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du Soir. Et une question plus philosophique que d'actualité pour commencer avec vous, Thierry Pech. Tiens, à quoi sert la politique aujourd'hui? Dans un monde où le progrès n'est plus acquis, où la défiance envers les institutions va croissante, quelle est la raison d'être de la politique? Changer la vie, réduire les inégalités, accompagner les aspirations, susciter le bonheur, supprimer des jours fériés?
Se gouverner collectivement dans une démocratie, c'est ça la politique. C'est pas simplement s'exprimer, c'est pas simplement faire entendre toutes les voies, tous les problèmes, c'est arriver à prendre des décisions ensemble. Et c'est précisément ce que nous n'arrivons pas à faire.
La démocratie, ça, pardonnez-moi, il y a des personnes qui font de la politique et qui prennent des décisions seules.
Oui, bien sûr, c'est pourquoi je vous dis en démocratie, c'est décider ensemble. Dans d'autres régimes, en effet, on peut prendre des décisions tout seul. Dans les autocraties, on décide seul, du haut des palais présidentiels. Dans les démocraties, c'est plus compliqué. Il s'agit d'arriver à décider collectivement. Et je dis, c'est précisément ce que nous n'arrivons pas à faire depuis maintenant. Alors, les opinions varieront sur la chronologie, mais disons 2 ou 3 ans. Bon, depuis que le fait majoritaire s'est absenté de nos institutions, le fait majoritaire qui les avait habitées, qui avait été la divine surprise de la Ve République pendant plus de 60 ans. Donc, c'est pas un petit événement qui nous est arrivé en 2022. Et voilà, donc nous sommes là et nous n'arrivons plus à nous gouverner collectivement.
Camille Pascal, la raison d'être de la politique, vous en donnez la même substance?
Oui, préciser simplement que la politique est bien, préexiste bien évidemment et à la République et à la démocratie. Donc, qu'est-ce que faire de la politique? Là, je reprendrai le terme, c'est gouverner. En France, aujourd'hui, c'est gouverner la nation. Et c'est donc trouver un équilibre. Et si nous sommes dans le cadre d'une démocratie, un équilibre qui correspond au contrat social. Bon, voilà, c'est pour moi, c'est ça, la politique. Mais évidemment, la politique, c'est à la fois, aujourd'hui, et encore une fois dans un système démocratique, mais ça peut être aussi dans un système autoritaire, c'est convaincre le peuple pour ensuite quand même obtenir, d'une façon ou d'une autre, que ce soit hissé sur un pavois ou les applaudissements du président chinois, mais enfin, obtenir quand même l'impression que, enfin, une sorte de blanc-seing pour gouverner.
La voix du Premier ministre Sébastien Lecornu lors de sa passation de pouvoir avec François Bayrou, c'était le 10 septembre.
La deuxième des choses, c'est dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Parce qu'au fond, vous venez de le dire, il n'y a pas de chemin impossible. Il faut qu'on arrive à mettre fin, au fond, à ce double décalage, le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens pour leur vie quotidienne, pour la situation économique et sociale, leur sécurité, bref, ce pourquoi, évidemment, nous sommes missionnés. Et ce décalage entre la vie politique du pays et la vie réelle devient préoccupante, et pas que pour celles et ceux qui gouvernent, pardonnez-moi, mais pour l'ensemble de la classe politique dans son intégralité. Et puis, comme ministre des Armées, sortant, ce décalage entre la vie politique intérieure et la géopolitique globale, on l'a encore vu ces dernières heures, on ne pourra pas continuer ce décalage éternellement parce qu'évidemment, il nous rattrapera.
Je l'ai trouvé étrange, Thierry Pech, cette première formule dire aux Français qu'on va y arriver. Comment est-ce que vous l'analysez vous-même ?
Il n'allait pas dire qu'on ne va pas y arriver.
Non, mais il aurait pu ne pas dire. Et j'allais dire, les actes auraient pu parler d'eux-mêmes.
Je crois qu'il est dans, son rôle. N'importe quel Premier ministre essaye de donner de l'élan à la mission qui lui a été confiée. Et donc, il est légitime qu'il s'exprime de cette façon. Si vous vous posez la question, c'est parce que vous n'y croyez pas, en réalité. C'est parce que beaucoup de ceux qui écoutent se disent « Bon, on va y arriver, ça ne dépend pas que de lui, en réalité. » Il y a deux questions, en réalité. Il y a la question de la méthode qu'il va proposer, des choix qu'il va essayer d'imposer. Et puis, il y a la réaction des forces politiques au Parlement face à ces propositions. Quand bien même aurait-il une méthode exemplaire, encore faudrait-il que les forces politiques qui sont aujourd'hui au Parlement acceptent de se faire des concessions, de rechercher un compromis et de monter sur la scène pour gouverner ou en tout cas pour soutenir un gouvernement. Et monter sur la scène aujourd'hui, c'est monter sur le Titanic, c'est du moins l'impression qu'elles ont toutes. Et donc la résistance, le blocage, il ne vient pas simplement d'un Premier ministre qui, manque à son devoir d'organisation de la négociation. C'est une critique qu'on pouvait faire à François Bayrou, peut-être n'a-t-il pas assez essayé, mais quand bien même eût-il essayé, les autres l'auraient-ils suivi ? C'est pas sûr. Et là, c'est ce qu'on espère voir se produire. Et je crois que beaucoup de Français, si résignés soient-ils, dans les enquêtes, montrent leur disponibilité à une politique de compromis. Plusieurs enquêtes parues récemment montrent qu'une majorité de Français souhaitent voir les forces politiques en présence se mettre autour de la table et chercher des solutions aux grands problèmes de la nation, notamment pour se donner un budget, bon, qui est le début de l'exercice. Et donc voilà, donc, je comprends qu'il ait dit ça, mais j'entends aussi à notre étonnement face à cette déclaration tous les doutes qu'on peut légitimement exprimer sur sa capacité à organiser le succès, parce que ça ne dépend pas que de lui.
Camille Pascal, est-ce que le nouveau Premier ministre donc est monté sur le Titanic ?
Écoutez, d'abord, ça commence mal. Ça commence mal, et venons-en à la politique parlementaire. Moi, j'ai écouté cette passation de pouvoir. Bon, il se trouve, vous ne l'avez pas rappelé dans mon parcours, mais que j'ai été un collaborateur de François Bayrou, donc que je le connais très bien. On peut dire même qu'il a inauguré mon entrée dans la vie administrative et politique, donc je le connais bien. Je ne connais pas le cornu pour le croiser, mais c'est quand même étrange. Parce que vous avez là un Premier ministre qui s'adresse à un Premier ministre sortant qui est censé appartenir à sa majorité, enfin à sa majorité relative, et auquel il fait la leçon en disant on va être plus technique, on va trouver une autre méthode. Et là, je me dis, mon gars, ça commence mal. Parce que si déjà tu braques Bayrou qui sort, parce que François Bayrou, dans quelques jours, il va présider les journées parlementaires du MoDem. J'attends le discours. Ça sera la réponse du berger à la bergère, en tout cas du berger pyrénéen.
Et qu'est-ce qu'il aurait dû dire alors ? On va échouer comme vous ?
Il aurait dû dire des choses beaucoup moins, me semble-t-il. Je trouve qu'il a été très dur vis-à-vis de François Bayrou. Alors on sait pourquoi. François Bayrou lui a tiré le tapis sous les pieds. Il devait être nommé en décembre. Bayrou a donné son veto. Parce qu'il voulait, il considérait que son heure était venue. Bon, donc tout ça, c'est sans les coulisses. Mais je pense qu'il aurait dû dire, nous allons continuer, peut-être sur une autre voie, mais avec vous. Parce que si il compte lâcher le MoDem pour tendre la main au Parti Socialiste, lequel va immédiatement déclencher le départ des LR, ben pour y arriver, la voie est étroite, comme dirait Gide.
Vous êtes d'accord, Thierry Pech, il y a déjà une faute de quart là, dans cette façon de s'adresser même à l'ancien Premier ministre, à François Bayrou ?
J'ai trouvé en effet qu'il était maladroitement indélicat à l'égard de Bayrou, pas dans l'extrait que vous avez fait entendre en particulier, mais dans tout ce qu'il a dit par ailleurs sur le changement de méthode, etc.
La technicité, ils sont plus techniques.
Voilà, donc c'est maladroitement indélicat. Mais surtout, j'ai envie de dire que les conditions du succès de la mission qui lui est confiée ne dépendent pas tant de ses relations avec Bayrou qu'avec le Parlement. Et s'il y a quelqu'un dont il aurait dû essayer de marquer, à l'égard duquel il aurait dû essayer de marquer de la distance, c'est celui qui venait de le nommer. Parce qu'on est dans un régime parlementaire. On l'a oublié à force de contempler des présidents faisant la pluie et le beau temps depuis l'Élysée. Mais en réalité, ils n'avaient le pouvoir que parce qu'ils avaient une majorité au Parlement. Et donc c'est au Parlement que le pouvoir se construit ou se déconstruit. Et je crois que ce qui n'a pas été tenté, ce qui n'a pas été formulé, explicité depuis deux ans, c'est que ce qui compte aujourd'hui, c'est pas vos relations avec le président de la République, c'est vos relations avec le Parlement. Et je crois qu'il aurait dû marquer de la distance à l'égard de celui qui venait de le nommer, pour marquer de la proximité avec ceux qu'il va devoir accorder demain.
Camille Pascal.
Oui, et d'ailleurs, j'abonde dans votre sens, parce que pour moi, ma grande surprise sur les quelques mois qui viennent de se passer, c'est justement l'échec, parce que c'est un échec, de François Bayrou à construire un dialogue avec le Parlement. Parce que, pour moi, François Bayrou est un homme de la quatrième. Il est culturellement, intellectuellement, un homme de la quatrième. D'abord, il n'est pas gaulliste, il ne faut pas faire un dessin, il est démocrate chrétien, cette force politique de droite qui s'est toujours opposée au gaullisme, pour un parlementarisme, et, enfin en tout cas une république, une cinquième république tempérée par le parlementarisme, ce qui a d'ailleurs été le fonctionnement de la cinquième république jusqu'à François Mitterrand. Donc, j'étais étonné de ça. Un jour, j'en discuterai avec lui, il doit y avoir des raisons, mais j'étais convaincu. Alors, il y a peut-être eu une première faille, c'est l'échec de la reprise du dialogue autour des retraites. Parce que s'il avait emporté, ne serait-ce qu'un maigre... maigre victoire dans la reprise du dialogue, ça lui aurait peut-être donné de la force pour, dès le mois de juillet, commencer à parler avec les parlementaires. Et là-dessus, je vous rejoins particulièrement. Et là, en fait, il redonne quand même le pouvoir au Parlement, parce que tout le monde a dit 49-1, etc. On ne peut pas lui reprocher, alors qu'on a reproché à ses prédécesseurs d'avoir abusé du 49-3, qui est quand même un article de la Constitution qui est pas illégal. Lui, il a donné la parole au Parlement avec le 49-1 et donc avec le vote de confiance, mais de façon spectaculaire et presque suicidaire. Ça, pour moi, pardon, peut-être que vos auditeurs attendent une analyse plus fine et plus profonde, je ne le comprends pas. Donc, il y a quand même, c'était l'homme le plus adapté, à mon sens, à justement ce dialogue avec le Parlement. Je sais, le cornu, bon, il a pour l'instant, il a quand même essentiellement commandé à des régiments. Donc, j'attends de voir.
Pour finir là-dessus, Thierry Pech, vous êtes d'accord avec cette idée qu'au fond, François Bayrou était le plus à même pour dialoguer, négocier, trouver, dessiner des compromis avec le Parlement, ou bien vous y voyez vous-même un échec personnel dans cette affaire?
Un peu les deux. Je crois qu'il était en effet assez bien positionné pour être l'homme de la construction d'un compromis entre les forces politiques au Parlement. Mais pour cela, il aurait fallu qu'il marque son autonomie à l'égard du président de la République. Il l'a fait insuffisamment, me semble-t-il.
Il prend le pouvoir,
bien insuffisamment.
Il le fait.
Et par ailleurs, je pense que c'est. On aurait pu, et on peut encore d'ailleurs, essayer de tirer parti de cette situation, par ailleurs très désagréable, cette situation politique d'impasse, pour faire vivre le dialogue au sein de la société civile, entre les partenaires sociaux, ce qui a été tenté, et bien tenté avec le conclave, mais dont les fruits n'ont pas été cueillis. En réalité, que nous importe que le MEDEF n'y ait pas trouvé son compte à la fin? Il aurait très bien pu dire, écoutez, il y a un point d'aboutissement, certes, il n'arrive pas à conclure, mais moi, je reprends les conclusions du conclave à mon compte et je propose au Parlement de les valider.
Les fruits étaient maigres tout de même.
On se contente de peu.
On fait de la politique.
On fait de la politique.
On va y venir.
Oui, il y a quand même une force syndicale importante, la première de ce pays, qui était prête à revenir sur la critique des 64 ans en échange d'avancées sur la pénibilité et l'égalité homme-femme.
La CFDT, pour ne pas la
Voilà, la CFDT, pour ne pas la citer. Bref, des gens avaient fait des efforts. Les partenaires sociaux, en tout cas celui-là, avaient mouillé leur chemise et mis un peu en danger même leur réputation. C'est pas facile de dire ce qu'elle avait dit Marie-Lise Léon. Bon. Y compris en disant on peut ouvrir la discussion sur la contribution des retraités actuels à la résolution du problème des retraites. C'est pas facile non plus de dire des choses comme ça. Eh bien, vous ne laissez pas les gens en plan lorsqu'ils ont fait ces efforts-là. Vous essayez d'en tirer parti et vous allez chercher le Parlement pour dire, voilà, la société civile française nous propose cette direction. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en faites? Je trouve que il était le mieux placé pour faire ça parce qu'il était au centre de la scène depuis si longtemps.
Et parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelle Le droit au sens, qui est
et parce qu'il avait marqué son autonomie à l'égard de la droite dont il venait
pour Sarkozy, bon, voilà. Et Chirac.
Donc et il n'a rien fait de tout ça. Moi, je suis très surpris et même un peu déçu sans avoir été un fidèle de Bayrou. J'ai pas voté pour lui, à vrai dire, mais je pensais qu'il était l'homme de la situation.
Moi, je parle très librement. J'ai été le collaborateur de François Bayrou et de Nicolas Sarkozy. Je suis peut-être le seul qui ait réussi. Alors, je n'ai jamais réussi à les réconcilier. J'ai encore essayé récemment. Je n'ai jamais réussi. C'est mon échec politique personnel parce que je pense que c'était important et que ça nous aurait évité l'expérience de 2012 et l'élection de François Hollande. Je ferme la parenthèse parce que c'est un homme de droite que je parle, mais au moins vos auditeurs sont informés. Mais
c'était clair, hein ?
Oui, oui, je pense, oui. Mais j'ai rarement mon drapeau dans ma poche. Et donc, on me l'a assez fait payer. Et donc, parce que cette distance avec le président, il la prend de façon très violente. Enfin, souvenez-vous qu'il est rappelé à l'Élysée alors que sa voiture part à TF1, où il doit faire un 20h, où il va expliquer que le MoDem quitte la majorité quand même.
Alors, on ne va pas parler de la fin de Bayrou encore trop longtemps, car la page politique du mois est désormais tournée. Je voudrais vous faire commenter cette citation d'Éric Le Boucher dans le quotidien Les Échos. Il y écrit « La politique est morte, désertée des gens intelligents, sèche d'idées, aveugle sur le monde extérieur, focalisée sur les petits conflits des petits prétendants, en état avancé d'inutilité. Comme en Italie, la société civile et l'économie vont devoir faire sans elle, éventuellement, contre elle. » Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord, Thierry Pêche, avec ce diagnostic dont on a l'impression que peut-être une part croissante des Français le partage, du moins dans la perception d'inutilité de la politique ?
Non, je pense que j'aime bien Éric Le Boucher, mais il s'est un peu noyé dans l'encrier, là. Il s'est fait plaisir. La politique préexistait à toutes nos institutions démocratiques, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et elle y survivra, malheureusement, d'une certaine façon. C'est la chose la plus ancienne, et bon. Donc, dire c'est mort, ça n'a pas beaucoup de sens.
Je pense qu'il parle de la politique institutionnelle telle qu'elle se dessine,
oui,
telle
même,
qu'elle est dessinée
même,
actuellement.
Même, je pense même que les institutions sont moins en cause que les forces politiques et les responsables politiques aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Qu'un doute, en revanche, grandisse dans l'esprit des Français sur l'utilité, l'efficacité de la politique et de l'action publique, parce qu'à la fin, il s'agit de l'action publique. Ça ne fait pas débat. Je crois qu'en effet, et c'est le poison contre lequel il nous faut lutter aujourd'hui.
Mais d'où vient ce doute, alors ?
Mais ce doute vient du fait que beaucoup, à tort ou à raison, ont le sentiment que sur les grands enjeux de la vie collective, de la vie économique, de la vie sociale, la politique n'a pas réussi à changer les choses, n'a pas réussi à avoir des effets décisifs. Bon, alors, parfois, elle en a, et il faut le dire, je pense qu'on peut verser au compte du macronisme, au crédit du macronisme, un relatif succès en matière d'emploi. Ça peut se discuter, mais je pense qu'on peut lui faire crédit de ça. Et donc, il faut le dire. Mais sur plein d'autres sujets, les Français ont le sentiment que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas, que ça ne change pas, et que la politique ne cesse de s'excuser de ses impuissances. En réalité, ils ont le sentiment d'un impouvoir de la politique. L'impouvoir, c'est l'impuissance du pouvoir. Et c'est ça qui ronge, je crois, la relation qu'ils ont avec leurs représentants. C'est contre ça qu'il faut lutter.
Camille Pascal, sur les origines multiples de ce sentiment d'inutilité, comment vous les identifiez ?
Alors, pour moi, il y a un sentiment de confiscation du pouvoir, des pouvoirs, par une élite. C'est de plus en plus formalisé, même par les discours protestataires. Et je pense que la défiance à l'égard de la politique, elle n'est pas qu'à l'égard de la politique. D'autres sondages montrent qu'elle est égale à l'égard des médias et à l'égard de la justice. Ce qui est, c'est une défiance à l'égard d'une confiscation parce que, mais c'est ma théorie, le peuple sent ou ressent une fracture profonde entre les élites métropolitaines et le peuple. Et que pourquoi ? Parce que il y a eu toujours un pacte en France où le peuple confiait à des élites qu'il connaissait le pouvoir politique. Ce qu'on appelle des protecteurs naturels, des interlocuteurs, des intermédiaires. Alors ça a été Tocqueville amenant ses paysans voter en Normandie, ça a été Clémenceau dans sa maison. Mais il y avait ce lien permanent, ce dialogue de terrain entre le politique, alors on peut dire l'élu, le notable, et le peuple.
Mais c'est pas ça, un peu fantasmé, ça,
par les deux exemples que vous donnez là. C'est pas fantasmé, parce qu'aujourd'hui, je m'en suis rendu compte, moi, à titre personnel, vous avez une élite parisienne, quelle qu'elle soit, médiatique, journalistique, politique, qui vit sur un scooter, donc qui ne prend plus les transports en commun. Moi, les réunions à l'Élysée, c'était le seul à venir en RER. Qui ne prend plus les transports en commun, qui ne traverse le périphérique que pour une seule chose, c'est prendre l'avion à Roissy ou à Orly pour partir ailleurs. Et vous faites un petit, ici, mais faites ici, dans ces locaux, un petit sondage pour savoir qui est allé passer les fêtes de Noël ou les fêtes de Pâques en famille, en province, vous aurez certainement des surprises. Et ça, les gens le sentent.
Donc c'est, selon vous, tout que la faute des élites parisiennes.
Ce n'est pas la faute, je vous dis que c'est un sentiment.
Vous êtes proche, je déteste ce terme de sentiment. Même.
Non, je dis
des
proches. Non, parce que le bourgeois du 16e, même la bourgeoisie traditionnelle a trahi. Elle ne transmet plus et elle se réfugie aujourd'hui au Ferret, comme on dit, dans les îles. C'est très intéressant quand même. Le Ferret, Ray, l'Île-Dieu, etc. Donc, c'est une sorte de d'émigration des élites traditionnelles qui n'assument plus leur rôle. Vous savez, je vais vous dire juste
un mot qui pourrait faire réagir Thierry Pêche.
Au moment du mariage pour tous, où il y avait des manifestations, etc. J'ai un couple qui demande à me voir. Moi, j'étais complètement sorti de toutes ces histoires-là. Il me dit, oui, vous comprenez, la France nous échappe, d'autres décident à notre place, etc. Il portait un nom de boulevard. Bon. Et je leur dis, très bien, bon, ben, vos enfants font quoi? Ah, nos enfants, ben, alors, il y en a un qui est dans la finance à Londres, l'autre qui fait du bénévolat et des charités au Bénin, et le troisième faisait ses études aux États-Unis. Et j'ai dit, où est le professeur? Où est le magistrat? Où est le journaliste? Vous avez abandonné le pays. Alors, ne vous étonnez pas 20 ans après d'ouvrir les fenêtres et de voir qu'on vous a repeint l'église en rouge. Mais ça, je suis convaincu que le peuple le sent.
Bon, une famille n'a jamais été représentative tout de même d'un groupe.
Non, mais c'est très intéressant.
Thierry Pêche.
Je suis plus sceptique sur ce point. Je pense que vous durcissez beaucoup le tableau des distances de classe qui s'organisent sur le territoire. Et d'ailleurs, à vous écouter, c'est aussi autant une affaire de classe qu'une affaire de territoire. Paris, la grande bourgeoisie, etc. Ces distances existent naturellement, des fractures territoriales, on peut les documenter. Je trouve qu'on leur fait porter beaucoup trop aujourd'hui. Que la France est moins polarisée qu'on en a le sentiment lorsqu'on lit les travaux de Fourquet ou lorsqu'on vous écoute, quoi que vous disiez des choses différentes. Donc je ne monterai pas sur ce cheval tout de suite. En revanche, je pense que pour revenir à l'efficacité des politiques publiques, parfois elles sont efficaces. Et on ne sait pas se le dire, et on ne sait pas se le raconter. Je vais vous donner un exemple. J'ai parlé de l'emploi, mais un exemple plus micro. En 2022, guerre en Ukraine, augmentation des prix de l'énergie partout dans le monde, des énergies fossiles en particulier, mais par effet de construction, des autres énergies aussi. On dit aux Français, il va falloir faire des économies. Vous allez devoir faire 10% d'économies sur votre consommation d'électricité. C'est beaucoup. Et ils le font. Ils font même mieux, ils font 11-12%. Non seulement ils le font, mais ils recommencent l'année suivante. Ils s'aperçoivent que, oui, un degré de moins chez soi, bah, c'est possible, on met un pull, etc. Qui les a félicités? Qui nous a félicités collectivement de faire nation, d'une certaine façon, autour de cette adversité? Quasiment personne.
Il ne fallait pas les féliciter,
alors,
les rétribuer.
Si vous voulez les rétribuer, mais en tout cas, qui a acté la victoire de cette politique qu'on disait être une bataille perdue d'avance, hein. On pensait qu'on n'y arriverait pas. Bon, et on y est arrivé. Mais personne n'est venu devant les Français leur dire, écoutez, bravo, merci pour nous tous, Nous sommes un peu plus indépendants parce que vous avez fait cet effort. Personne. Bon. Et donc, je crois que c'est comme si nous n'arrivions plus à vivre ensemble.
Et ça, c'est une erreur justement de la classe politique de ne pas être capable, non pas de remercier, il me semble que ce n'est pas le sujet, mais de reconnaître un effort.
Je pense qu'on a, beaucoup d'entre nous ont de plus en plus de mal à sentir que nous vivons dans un collectif et qu'il faut l'animer. Au-delà de toutes nos différences de territoire, de classe, de revenus, de ceci, de culture, nous vivons dans un collectif. Les problèmes budgétaires, c'est quoi à la fin, les problèmes budgétaires qu'on rencontre, qui sont très difficiles? C'est d'abord la question des retraites, c'est ensuite la question de la santé, et après c'est tout le reste. Mais 1 euro sur 4 dépensé par l'État, c'est les retraites. Enfin, par les pouvoirs publics.
Emprunté par l'État, vous voulez
dire. Emprunté par l'État. Bon, ça c'est un problème de deal collectif, de contrat collectif ensemble. Est-ce que nous souhaitons mettre autant de richesses dans le système de retraite? Parce que quand on met autant d'argent là, on ne le met pas ailleurs. C'est un coût d'opportunité très élevé. Bon, c'est pas un débat des élites. C'est pas la question, c'est pas est-ce que les élites coûtent trop cher. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un débat collectif. Comment on anime le collectif pour nouer un contrat social sur ces grandes questions? C'est ça qu'on a du mal à faire aujourd'hui.
Rémi Pascal, et notamment, vous évoquez un point, la façon de rétribuer ces Français qui ont consenti à une somme d'efforts.
Les Français, d'abord, je les trouve d'une obéissance et d'une discipline, quoi qu'on en dise. Écoutez, regardez ce qui s'est passé. J'étais à Matignon, au moment du Covid.
Écoutez, à part... J'étais conseiller de Jean Castex.
Oui, bon, et donc j'étais confiné à Matignon. Ce qui est une expérience, vraiment, être confiné à Matignon, ça vaut un livre. Donc, et nous avions des réunions masquées, enfin, c'était très étonnant. Bon. Et donc, ils ont quand même... On leur a quand même construit un machin. Enfin, je me suis insurgé contre ça à l'époque, j'ai pas gagné, mais on leur a construit un énorme machin administratif. Mais ils l'ont respecté. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, ils ont fait attention à leur consommation. D'abord, ils l'ont fait pour eux, parce que la crainte de voir le pouvoir d'achat diminuer, et peut-être aussi collectivement. Mais les mots sont fatigués. Les mots sont fatigués. La politique n'est pas morte, mais les mots sont fatigués. Je ne suis pas sûr qu'il fallait les remercier. Par contre, ce qui aurait été très fort, c'est de dire, écoutez, vous avez fait un effort, on va baisser cette année, ou pendant 2 ans, le prix de l'électricité. Voilà. Et ça, c'est parce que vous avez justement engagé quelque chose de vertueux. Alors là, ils auraient tout de suite compris. Ça, je peux vous dire qu'ils auraient tout de suite compris. Et là, au moins, on revient à ce que vous disiez, monsieur, c'est-à-dire qu'on aurait compris ce qu'était que l'efficacité de la vie politique, de la politique. Voilà. Donc là, moi, je partage votre analyse. Je pense que ça ne devait pas être uniquement dans le discours.
Je me permets de vous couper, mais certains pourraient dire, dans le fond, l'État a quand même soutenu financièrement, rétribué également... Durant cette période de la crise sanitaire, beaucoup de Français, beaucoup d'entreprises, l'État a dépensé beaucoup d'argent. Pour le coup, c'est une période durant laquelle l'État a montré son efficacité, la politique en tant que telle.
Mais on le fait payer maintenant. C'est-à-dire que là, c'est pas pour rien. 1 milliard supplémentaire de l'endettement. Y a quand même un moment donné. Vous savez, moi j'ai été très surpris, et là on peut revenir sur les élites, notamment les élites économiques, sur ce discours qui a commencé qui a prospéré sur l'argent gratuit. Enfin, c'était surréaliste. Nous avons entendu, enfin moi, vous êtes témoin comme moi, citoyen, vous avez entendu, l'argent gratuit, les taux d'intérêt sont au plus bas, ils sont négatifs, on peut y aller, on peut emprunter, on peut créer de la richesse avec rien. Mais des économistes, les échos, des grands patrons, mais je me suis dit, les gens deviennent fous. Est-ce que les gens sont devenus fous? Où a-t-on vu que l'argent était gratuit? Mais ça n'a jamais existé.
Comment rendre, Thierry Pech, c'est une vaste question, vous pouvez la prendre, j'allais dire, dans le sens qui vous plaira, mais comment rendre le sentiment que la politique peut être efficace? Dans le fond, que la politique peut changer les choses, peut changer la vie, comme le dit la formule, ce sentiment-là, comment on peut en percer la gangue pour tenter de le retourner?
Deux choses, une question très difficile, mais je crois qu'il y a deux directions à ne pas lâcher. La première, c'est obtenir des résultats sur les questions qui comptent. Là, beaucoup de Français estiment avoir des problèmes de pouvoir d'achat. On peut leur contester cette sensation en multipliant les rapports de l'INSEE en disant « mais enfin, en fait, ça monte quand même, le niveau de vie ». Bon, à la fin, ils ont le sentiment de vivre un petit peu à l'étroit dans leur budget. Donc on a une question de pouvoir d'achat. Comment on la résout ? On ne va pas distribuer de l'argent. En revanche, il y, y a sur la table une proposition qui vient des travaux d'Antoine Fouché. On va déplacer le financement de la protection sociale, des revenus du travail, vers d'autres prélèvements, en particulier fiscaux, la TVA, les successions, que sais-je. Bon. Ça redistribuerait du pouvoir d'achat sur la fiche de paye à beaucoup de gens. Bon. Est-ce que c'est une solution ? Je donne cet exemple, je ne dis pas ce que j'en pense, je ne le donne pas parce que je suis d'accord, ce n'est pas le sujet. Mais
je me permets juste de vous poser une question à ce sujet. Est-ce que les Français vont, j'allais dire, gratifier la politique pour cela ? Est-ce qu'ils vont reconnaître que c'est le fruit de politiques publiques ? Vous preniez l'exemple tout à l'heure du chômage. Je pense qu'il y a très 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 peu de Français qui louent le gouvernement pour cette baisse du chômage aujourd'hui. On fait peut-être assez peu le lien entre choix de politique publique et résultats dans la vie.
Non, mais peut-être les Français manquent-ils de gratitude. Mais quand
c'est
les
un mot inconnu de la politique.
Oui.
Il n'y a jamais de gratitude. Jamais.
Vous connaissez la phrase de Churchill, si tu veux de la gratitude, achète un chien. Peut-être elle
serait pertinente. La reconnaissance est la seule maladie du chien qui n'est pas transmissible à l'homme.
Bon.
Thierry Pêche.
On peut juger. Mais en tout cas, vous noterez que lorsque la politique obtient un résultat sur le front de l'emploi, on se met à parler d'autre chose. On soulève d'autres problèmes. Et c'est aussi ça, avoir réglé une question. C'est, on se concentre sur autre chose. Si demain, on pouvait se concentrer sur autre chose que le pouvoir d'achat, ça signifierait peut-être qu'on a résolu ce problème. Donc, il faut avoir l'obsession d'obtenir des résultats, et des résultats vérifiables et sensibles, et quand on les tient, les célébrer. C'est l'exemple que je donnais sur le plan sobriété, par exemple. Deuxième direction, et c'est également important, animer la relation entre gouvernant et gouverné comme une relation. Et pas comme un abandon Le mandat n'est pas un abandon de compétences des citoyens. Voilà. Le mandat, c'est le début d'une relation entre représentants et représentés. Et faire vivre cette relation, ça suppose, une attention permanente à ce que la société a à vous dire. Les conventions citoyennes peuvent être, par exemple, un instrument de cette relation. Moi, je sais que dans mon milieu, les référendums n'ont pas bonne cote. Mais je pense que consulter la population, une fois en 5 ans, sur une question, voire plusieurs, c'est aussi une façon d'être en relation avec elle. Lui faire des propositions, c'est aussi être en relation avec elle. Mais s'inquiéter en permanence de l'animation de cette relation. Voilà. Je ne veux pas être trop long, mais à Terra Nova, on avait construit une petite communauté citoyenne au début de la campagne de 2022. Et on avait demandé aux gens qui composaient cette communauté, qu'est-ce que vous attendez d'un président de la République ? Ils avaient dit 2 choses qui paraissaient contradictoires et qui en réalité ne le sont pas. Ils avaient dit, on attend que ce soit De Gaulle, en gros. Il faut qu'il soit volontaire, décidé, autonome, machin. Bon. Puis ils avaient dit, mais on veut aussi qu'il fasse ce que vous faites avec nous, qu'il vienne nous voir, qu'il nous écoute, qu'on puisse discuter avec lui. Ils veulent de la proximité. Bon. Ces 2 choses, en fait, se réconcilient. Dans la relation, les gens veulent être gouvernés, mais ils ne veulent pas être dominés. Ils veulent être dans une espèce de discussion permanente avec leurs gouvernants et leurs représentants. Et je crois que ça fait partie de l'économie du pouvoir dans une démocratie moderne.
Depuis le règne de Louis XIV.
Camille Pascal, c'est ce que vous disiez un petit peu sur Tocqueville et Clémenceau. Et
depuis le règne de Louis XIV, les Français portent le deuil du roi itinérant, c'est-à-dire du monarque qui traverse son royaume, qui vit...
Vous pensez qu'ils sont vraiment nombreux à être en deuil encore aujourd'hui ?
Non, mais de l'image, ça correspond exactement. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'autorité, qui a la légitimité, mais qui vient les voir. Voilà. Bah, à partir du moment où le pouvoir s'est enfermé dans la capitale, qui d'ailleurs était une capitale dans laquelle le roi n'habitait pas toujours, ils ont cette nostalgie-là. Alors, c'est l'inconscient collectif. Je ne dis pas attention, hein, parce que bon, que les Français sont monarchistes. Ils le sont un peu, d'ailleurs. Nous sommes dans la Ve République, et je ne cesse de le dire, moi, chaque fois qu'on m'interroge, la Ve République, qui est bâtie sur la seule constitution qui n'a pas été votée par une constituante, et la seule en France, est aussi, pour moi, et ça, c'est, on voit bien le paysage, l'outillage culturel et mental du général de Gaulle, c'est la synthèse entre la charte de 1830, qui instaure une sorte de bicamérisme, et le plébiscite de 1852. Donc, entre orléanisme et bonapartisme. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné jusqu'au début, jusqu'à des années 2000. Et maintenant, ça ne fonctionne plus. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Alors, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce qu'on a trop trituré la Ve République qui était... Voilà. Est-ce qu'on a inventé des règles non écrites sur, par exemple, le partage des pouvoirs en cas de cohabitation, etc., qui ont fini par abîmer la Ve, que plus personne ne s'y reconnaît, et que ce soit terminé dans le grand débat en même temps, c'est pas impossible. Mais il est certain que les Français ont adopté par plébiscite, par référendum, c'est le plébiscite impérial. Enfin, c'est l'historien qui parle. Enfin, ça crève les yeux, mais personne n'en parle jamais. Mais c'est un plébiscite impérial. Bon, mais sur la personne de Gaulle et sur les institutions. Mais ces institutions, elles lui ont survécu. Et là, elles sont pas malades. Les Français n'y adhèrent plus.
Thierry Pêche.
Juste, c'est pas pour ouvrir un débat historique, mais le plébiscite impérial, le césarisme du Second Empire, consistait à faire valider par les Français ex post des décisions qui avaient déjà été prises. 9 fois sur 10, c'était ça. Donc là, quand même, c'était un référendum et pas un plébiscite, au sens où ils ont adopté une constitution.
Un mot quand même sur le récit que la politique fait d'elle-même. Est-ce que la politique n'est pas en manque de récits convaincants aussi pour tenter de tisser des liens avec les Français, pour tenter de dessiner cette relation? Tout le discours autour d'il n'y a pas d'alternative, Bruxelles demande, tout ce discours, au fond, comme la politique est devenue un non-choix, est-ce qu'il ne faut pas aussi le faire évoluer, le transformer, Thierry Pêche?
Je reprendrai pas cette rhétorique « there is no alternative » qui est vraiment la rhétorique vraiment de la gauche face à tous les problèmes économiques. C'est la critique du... Bon. En réalité, il faut admettre qu'on n'ait pas le choix des questions. En revanche, on a le choix des réponses. Il faut admettre que la politique soit saisie de l'extérieur par les problèmes du moment. Hein, on n'a pas choisi d'avoir un problème budgétaire. Les générations présentes ne sont pas comptables de ce qu'ont fait celles qui les ont précédées. Mais... elles sont saisies de ce problème. En revanche, elles ont le choix des moyens pour résoudre ces problèmes. Voilà. Les générations qui nous ont précédés ont été face à la question totalitaire. Bon. Nous sommes aujourd'hui face à la question russe. On n'a pas choisi tout ça. Et pourtant, il va falloir qu'on résolve ça. Et ça, c'est comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est pas tellement « there is no alternative ». On n'a pas le choix des questions. En revanche, on a le choix des réponses.
Camille Pascal, vous êtes sur la même ligne, en quelques mots.
Cher Quentin, c'est pas à vous que je vais expliquer que Macron avait réussi à réveiller un discours et à entraîner en 2017. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? C'était voilà, il y avait, moi c'est une rhétorique à laquelle je ne croyais pas, mais parce que je suis voilà, peut-être, mais ça a marché, le peuple a suivi et a enterré l'ancien système. Moi je considère tout qu'entre 2016 et 2017, nous avons vécu en France une sorte de révolution de velours. Voilà. Nous avons éliminé toute une génération de la vie politique française, celle des années 80-90, puisque en quelques mois disparaissent Juppé, Sarkozy, Hollande, Valls. Donc il y avait bien quelque chose à réussir. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas continué? Voilà.
C'est une question de fin, donc à laquelle il faudra répondre peut-être dans une autre émission. Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion. Camille Pascal, haut fonctionnaire, écrivain, historien, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy et de Jean Castex. Thierry Pêche, directeur général du groupe de réflexion Terre-Neuve. C'est comme ça qu'on dit maintenant?
Terra Nova,
je plaisante. Merci à tous les deux et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vincey, Antoine Héral. À suivre après le journal Une éthique pour le grand âge. On en parlera avec le professeur émérite d'éthique médicale, Emmanuel Hirsch.